Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Moi, ce que je préfère, c'est être invitée partout, mais rester chez moi. Qu'on me dise « je t'aime » et que je puisse répondre « non merci ». Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Pauline de Tarragon. À l'occasion de la publication de sa bande dessinée Minuscule, folle, sauvage, aux éditions La Ville Brûle. C'est parti. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Évidemment, on est sur un objet très précieux. Enfin, on a eu tendance à voir, et nous-mêmes, les libraires, à en prendre très soin, à avoir l'impression de toujours... De poser la main dessus, de s'assurer qu'il ne soit pas près de choses qui puissent le tâcher, des choses comme ça. Bon, moi, le mien, évidemment, il a vécu sa vie avec moi, donc il commence à être un petit peu plus gris. Mais en tout cas, on a un soin très particulier autour de ton livre. Et quand je l'ai relu tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était même tout le but de ton édition, c'était d'avoir un livre doudou. C'est ça ?
Alors déjà, sache que pour pas qu'il soit taché, faut vraiment pas l'avoir lu parce qu'il se tache très 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 facilement. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois qu'il est un peu corné, abîmé, tout ça, parce que je sais que ça se lit rapidement et du coup, parfois les gens ils le relisent plusieurs fois. Voilà. Et puis c'est vrai que moi, en fait, j'avais toutes ces idées, toutes ces pages, tout ça en tête, et j'ai fait ça pendant presque un an et demi et tout. Mais c'est vrai qu'à la fin, l'objet façonné, tu sais jamais trop à quoi ça va ressembler. Et ça, pour le coup, c'est grâce à Marianne, donc de La Ville Brûle, qui a choisi un papier absolument somptueux, qui a une couleur un peu crème et qui en plus sent extrêmement bon. Je sais pas si vous êtes sensible au papier, mais là... il sent hyper bon. Moi, je passe ma tête dedans trois fois
c'est
par
vrai.
Jour. j'ai pas relu le livre, par contre. Je l'ai relu une fois quand il est sorti. Et après, je l'ai plus jamais relu parce que j'ai peur de pas aimer certains trucs. Donc, du coup, je le relis pas. Mais voilà, oui, je suis contente qu'il ait ce... c'est vrai que quand je le vois, il a ce côté, justement, oui, très épuré. Il a un peu de vernis. Et puis, il y a plein de choses très... très fragile et très intime à l'intérieur, donc je pense que ça renvoie aussi cet aspect-là un petit peu précieux.
Mmh. Oui, et d'autant que, évidemment, c'est quelque chose qu'on a déjà constaté à La Ville Brûle, mais il y a aussi toi, de ce que tu fais, de la façon en fait dont tu crées dans ce monde. C'est l'attention aux petits détails, les petites choses que l'on va voir au bout de plusieurs lectures. Moi, je me suis amusée à lire toutes tes listes. Il y en a même une où j'ai fait un cœur, parce que je trouvais que c'était genre la meilleure liste de toutes. Inventer une machine qui met la couette dans la housse de couette.
Ben, ça existe, en fait.
Ça existe.
Enfin, on m'a envoyé plusieurs fois, mais ça ne m'a pas convaincue. Moi,
ah bon,
ce que j'aimerais, c'est rien faire, en fait.
Ah oui, il faut quand même être dans l'action.
Mais justement, avant-hier, sur ma housse de couette, j'ai vu qu'il y avait des petits nœuds sur les coins et qu'en fait, je pense que ça sert à ça, mais à attacher la couette dedans. Et après, du coup, et j'ai pour la première fois de ma vie réussi à faire ça sans m'énerver. Parce que d'habitude, quand je suis en couple, notamment, j'attends que l'autre personne vienne chez moi pour... faire ça, et j'ai déjà dormi sur le canapé parce que j'avais trop la flemme de faire ça. C'est un vrai sujet.
Je vois ça.
Une vraie névrose. Et pardon, donc dans la liste, il y avait un autre
Yes, donc cette fameuse machine, et la suivante, c'est réconforter un ami triste. Amie triste.
J'ai plein d'amis tristes. j'ai aucun ami qui va vraiment bien. C'est pour ça qu'on est amis, je pense.
Mais après, si je puis me permettre, est-ce que vraiment le monde va bien ? C'est aussi ça que ton livre questionne, c'est-à-dire que la chance qu'on a en fait de lire toi, ton grand trajet, ta grande exploration dans ta tête, le trou de ta tête, c'est comme ça que c'est indiqué au tout début. On est très nombreux, nombreuses à se reconnaître à des endroits différents, mais à quand même, on se pose cette question-là de à quel point le monde va-t-il bien ou en fait va-t-il très mal?
Ouais, je pense qu'il faut être un peu con pour penser que ça va, enfin, ou alors pas lire rien, enfin, genre vivre de... Enfin, non, parce que même quand on croise des gens dans la rue, c'est vrai que moi, j'ai rencontré très peu de personnes qui n'avaient pas d'angoisse ou qui... Après, j'ai rencontré pas mal de gens, parce que je rencontre énormément de gens à l'année avec les tournées de spectacles ou de, enfin, de concerts ou des dédicaces ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus la génération de mes parents, qui avaient moins de, je sais pas, de remise en question ou de combat ou d'engagement politique ou même mon frère qui est par exemple un an plus âgé que moi, je vois qu'il y a plein de choses qui l'énervent moins, peut-être parce que c'est un garçon aussi, et donc du coup, il voit pas toute cette violence et toutes ces injustices. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que dès l'enfance, tout ce que je trouvais pas juste ou tout ce que je trouvais triste, tout de suite, ça me révoltait, et tout de suite, où je me mettais à pleurer, où je m'énervais, enfin, même très jeune, je me suis battue dans la cour parce qu'il y avait quelqu'un qui avait insulté mon frère. Alors, je me suis dit, je vais aller le taper. Déjà, des problèmes de gestion de la colère. Donc, ça, je le fais plus maintenant, sinon je vais aller en prison. Mais oui, je pense que c'est un constat général, et que là-dedans, il y a des gens qui réussissent à se préserver un peu, et puis il y en a d'autres qui sont, c'est vrai que vers 16-17 ans, quand j'ai découvert que être une femme, bien que j'ai découvert aussi que j'avais un statut très privilégié, mais juste être une femme dans la société, je me suis dit, je vais être tout le temps énervée, je vais être tout le temps en danger, je vais être tout le temps pas trop à ma place, je vais devoir me battre et tout, et donc à partir de ce moment-là, c'est dur de pas être tout le temps en colère, et donc on essaye de faire des choses pour en parler, et c'est vrai que rencontrer d'autres personnes avec qui parler de ça, lire des bouquins et regarder des films, ça peut être très réconfortant. On peut y avoir ce truc de doudou, parce que parfois même toi t'as pas forcément les mots, et il y a d'autres personnes qui vont dire tiens, on a fait un film sur exactement ce qui te tracasse en ce moment, et c'est trop pratique. Et c'est aussi pour ça que j'ai cité pas mal d'autrices et tout dans le livre, parce que parfois, juste ce qu'elles disent, ça suffit. Et moi, j'avais pas besoin de remâcher ça à ma sauce. Mais donc voilà, moi, j'ai l'impression que c'est juste un peu un témoignage d'une fille de mon époque, même si je parle pas de trop de sujets, mais au moins de santé mentale et de féminisme. Et j'ai pas l'impression d'avoir dit des choses révolutionnaires, mais en effet, quand il y a des personnes, que ce soit un homme de 50 ans ou une fille de 14 ans ou entre les deux, qui me disent « Ah, le livre, il parle de moi », je trouve que c'est assez fou et que c'est le meilleur compliment, parce que moi, j'avais vraiment pas envie de faire un livre pour moi qui parle de moi et qui est genre une psychanalyse. Ça, je trouvais ça vraiment pas intéressant. Et donc, le fait que voilà, ça parle à des gens et en vrai, c'est le projet que j'ai fait qui a le mieux marché, on va dire, pour le moment, qui a le plus de succès. Quand je me promène dans la rue et que je vois qu'il est dans une vitrine, je me dis trop bien, parce que tout ce que j'ai fait avant, c'était un peu caché derrière, même si j'avais quand même un public et tout, c'était un peu toujours caché. Et voilà, et je suis contente que le truc le plus compliqué à faire, ça soit celui qui ait rencontré le plus de personnes pour le lire, quoi.
Mais c'est vrai que ton adresse de narration, il est au final très singulier et en même temps très ouvert, et je pense que c'est à cet endroit-là où on s'identifie très fort, c'est qu'en fait tu vas vraiment nous donner des détails très précis en fait de ce que tu vis, de comment tu te ressens, de cette fameuse exploration dont je parlais avant, etc. Mais en même temps, tu ne prends pas la voix des autres, en fait. Je me suis fait cette réflexion-là, c'est qu'on a l'impression que tu vas en effet toucher beaucoup de monde, mais sans les montrer du doigt, alors sauf les hommes à un certain moment,
un
tout petit peu
à peine,
mais sinon il y a vraiment t'as vraiment super bien réussi à faire de petites choses le grand collectif. Et quand on voit les réactions et les façons dont j'ai pu m'identifier ou d'autres personnes de mon entourage, etc., alors qu'on est extrêmement différentes, je me suis dit, mais en fait, la force, elle est là. La force, elle est dans tous les interstices où tu nous laisses la place d'exister sans nous nommer.
Merci déjà pour cette analyse, parce que moi, je suis juste là, genre, oh, j'ai fait un dessin. Donc, c'est super stylé. Je réemploierai toute ta phrase en disant, j'ai vraiment voulu faire ça, en fait. Mais oui, je pense que c'est aussi par peur de parfois dire des conneries. Par exemple, que ce soit sur, je parle du trouble borderline dans le livre, j'avais vraiment pas envie de dire le trouble borderline, c'est ça, et peut-être que si tu te reconnais là-dedans, ça veut dire que tu as ça, et je sais qu'aussi c'est un spectre assez large, et que voilà, il y a des gens qui doivent vivre à l'hôpital psychiatrique, qui peuvent littéralement pas vivre seuls, il y a des gens qui vivent très bien avec, il y a des gens qui sont même soignés de ça, et qui du coup... je crois que c'est comme s'il l'avait plus. Enfin, j'ai l'impression que ça se, on peut s'en débarrasser un moment. Et donc du coup, je me disais, c'est vrai que voilà, c'est comme dans un débat, on va dire en famille. Imaginons, tu parles de féminisme ou je sais pas quoi, et tu vois que genre ton grand-père, il est un peu réticent et qui veut te contredire et qui veut machin. Le moment où tu vas dire non, mais en fait moi, il m'est arrivé ça et moi, ma copine, il lui est arrivé ça. Bah là, il peut plus rien dire en fait, parce que du coup, c'est par limite, il va être là, qui c'est qui t'a dit ça, qui c'est qui t'a dit ça, les hommes sont horribles, et t'es là, bah, c'est toi, il y a 5 minutes, qui me contredisait. donc voilà, je pense que c'est une façon de bah, c'est un peu la citation aussi d'Isabelle Sorrent au début, c'est de dire, voilà, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'aller explorer et retourner toute son enfance et retourner toutes ses questions et machin, et donc moi, si je peux le faire parce que j'ai pas le choix et que ça aide d'autres personnes, c'est super. Après, c'est vrai que c'est vraiment pas évident de se lever tous les matins et de se dire, alors attends, quel est le sens de ma vie, et peut-être que je vais tout changer et peut-être que je vais aller poser des questions à tout le monde. C'est très fatigant, mais au final, voilà, c'est la récompense de ça, c'est de voir qu'il y a d'autres gens qui s'identifient. Et aussi, je trouve ça un peu inquiétant qu'il y ait autant de gens qui s'identifient dans tout ce qui est l'anxiété sociale et tout, parce que je me dis, mais en fait, tout le monde fait semblant en vrai d'être à l'aise. Moi récemment, là, tous mes amis m'ont dit, ah, tu sais, je suis pas très à l'aise avec les dynamiques de groupe et tout, et j'étais là, mais venez, on arrête d'être un groupe, parce qu'en fait personne n'est à l'aise. Tout le monde me dit, moi j'aime pas aller aux soirées, va pas aux soirées. Enfin, en fait, c'est, je pensais que moi j'étais un peu un cas isolé là-dedans, que j'avais fait semblant très très longtemps d'aimer ça et tout, et en fait je me rends compte que c'est tout le monde, et là en plus, donc avec mes amis, on a bientôt 30 ans, et donc on a ce truc de dire, ah, on est vieux, on veut plus sortir, on veut plus boire, mais en fait on n'aimait pas ça, et ça nous apportait que des angoisses et des problèmes, et donc ouais, c'est vrai que le fait de dire ça dans un livre, et de même dire à ses propres amis, à sa propre famille, parfois juste vous voir, vous parler m'angoisse, ça tu peux pas vraiment le dire à l'oral, quoi. Genre, tu peux pas dire à ton ami, on devait boire un café, enfin tu peux, mais ça peut être mal pris. Et là, de le foutre dans un livre et de dire, lisez, c'est quand même bien, bien pratique.
Mais oui, d'autant que ce qu'on fait avec toi, donc, c'est aussi ralentir. Malgré le fait qu'on lise, que tu aies des périodes d'accélération, de travail, de combler le vide, de combler le temps, d'aller... Et encore une fois, c'est des choses qui, à l'état de société, sont plutôt courantes, c'est-à-dire de combler constamment, en fait, le vide, l'attente, l'ennui, le on ne sait pas. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tu, à chaque fois, indiquais les sortes de petites tâches réjouissantes de la vie. Ouais. Qui peuvent être de, on regarde par la fenêtre, on regarde les passants, on... Alors évidemment, il y a parfois des choses qui s'immiscent à ces moments-là, comme les mille et une questions, qui peuvent être fatigantes, en effet, d'imaginer toute cette foule, ce qu'elle pense et ce que là, mais qui peut aussi redonner sa place aux instants de vie qui ne sont pas productifs. Ça peut être juste des petits instants, et ça passe,
ouais.
En fait. Ce petit endroit-là, dans les instants de vie...
Oui, c'est, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réussissent à faire ça, donc à se poser sur un banc, à regarder sans écouter de musique, sans dessiner, sans lire, sans téléphoner. Mais c'est peut-être des gens qui plus tard vont se dire, ah putain, j'ai rien foutu de ma journée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû commencer ça, j'aurais dû me mettre au sport. J'aurais dû... Et moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je fais 50 000 trucs et à la fin de la journée, je me dis, cool, j'ai fait 50 000 trucs, mais ma journée, je ne l'ai pas vue passer. Je sais pas pourquoi j'ai fait 50 000 trucs, et c'est vrai que parfois le dimanche je me mets dans mon canapé avec un plaid et un livre et tout, et je reste 5 minutes et je fais, ah, je me suis bien reposée. Allez, là, je fais le ménage, je fais 10 000 trucs et tout, et je trouve ça triste en fait, parce que c'est vrai que tu peux très vite passer, bah moi là, les 10 dernières années je les ai pas vues passer, parce qu'en même temps j'ai fait énormément de choses et c'était trop chouette et tout, et en même temps il y a plein de moments où je me disais, mais c'est ça, ma vie correspond pas du tout à comment je me sens. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis plutôt casanière, plutôt introvertie, et en fait, je suis constamment en dehors de chez moi avec plein de gens, comme maintenant, par exemple. Mais en même temps, tu as toujours ce truc de... bah, je me force un petit peu, et après, tu vois, là, je sais que tout à l'heure, je vais être dans le train, et je vais me dire, ah, c'était trop chouette, et machin, et je rentre chez moi, et je dors, et je me dis, bah, cette vie est quand même incroyable, et j'ai trop de chance que les gens lisent mon livre et tout. Et en même temps, je sais que bah, si demain, par exemple, j'ai pas grand-chose à faire, je vais très, très mal le vivre. Alors, j'ai une autre dédicace à Paris, heureusement. Mais, et c'est vrai que bah, j'ai une amie qui est comme ça, et donc avec qui on ne se juge pas. Et on a ce truc de genre, bon, bah, si ça nous fait souffrir de pas supporter le vide et de pas supporter le silence, on a le droit de combler comme ça le plus possible. Mais j'ai l'impression que c'est de la triche. Et j'ai dit ça à ma psy, j'ai dit je triche en fait. Et elle m'a dit mais non, mais c'est pas négatif forcément. Tu trouves des solutions. Enfin non, elle me vouvoie. Mais c'est vrai que ça c'est une grosse question. Et en plus on sait que c'est depuis qu'on a les téléphones, qu'on a les notifications fois un milliard et tout, que tout s'est accéléré en fait. Et on a l'impression qu'il faut tout accomplir. Qu'on va mourir dans 2 ans et qu'il faut se dépêcher, qu'il faut produire et qu'il faut poster. Et ça fait méga boomer de dire ça, mais en vrai, on se rend compte et en même temps, on n'arrive pas à ralentir. Et c'est vrai que même avec Instagram et tout, moi, je me rends compte que ça m'apporte énormément de choses. Et en même temps, d'y passer, je ne sais pas, 4 heures par jour, c'est un scandale, quoi, pour le... Bah, c'est ça, pour ta capacité de concentration. Et puis, tu vois plein de trucs qui t'excitent le cerveau, qui t'énervent. La moindre personne qui vient et qui va t'envoyer un message qui va un peu t'énerver. Moi, j'arrive pas à me dire, oh, je répondrai plus tard. Je suis en mode... et voilà, c'est que des trucs où, genre, moi, je sais qu'il y a un problème, mais j'arrive pas encore à prendre le temps, à respirer et à... Sauf quand je pars, en plus j'habite à Paris, donc la catastrophe, enfin tout ça est accéléré fois 1 milliard. Donc voilà, j'ai pas trop de solutions, mais faire des petites listes comme ça, ça aide un petit peu. Et écouter les listes des autres aussi. Même si on est tous différents, ça peut donner des pistes, quoi.
Ouais, des idées de petits temps calmes. Ouais. C'est la liste des temps calmes. Mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ce spectre-là de la relation sociale, en fait, de vraiment comment on est avec les autres, avec soi-même, comment on respecte ses temps de repos ou on ne les respecte pas. Mais en fait, comme tu dis, tu n'as pas de solution. Donc, ce qui fait que tu as un prisme assez large, ce spectre est assez large où... On va d'abord te rencontrer avec des situations où une amie va un peu insister. Enfin, je crois que c'est quand t'es plus jeune, ouais, où les gens insistaient plus. Et ouais. Au final, t'étais contente parce que t'as vécu des choses, j'imagine, que tu n'aurais pas vécu toute seule.
Ouais.
Et après, plus tard, bah, tu te rends compte que ben là, elle a fait de trop. Ou vraiment, t'aurais vraiment voulu rester chez soi et que c'était OK. Donc, il y a quelque chose comme ça de parfois, le monde fait du bien et parfois, le monde devrait disparaître.
Ouais, et en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est une question que je vais jamais vraiment, à laquelle je vais jamais vraiment répondre parce que y a toujours ce truc de même quand je suis contente d'être seule et que j'aime ce moment, je vais quand même m'en vouloir. Je vais me dire, mais pourquoi tu aimes pas les gens? Enfin, pourquoi tu. Quand quelqu'un veut me voir et me dit, ah, j'ai trop envie de te voir et que moi, j'ai pas envie de voir cette personne, je me dis, mais je suis une sociopathe, en fait. Et ça m'arrive tout le temps et j'en parle tout le temps. Et mon copain, l'autre fois, il m'a dit, mais ça fait 5 ans que tu me parles de ça. Et je vois que ça rentre pas dans ma tête, quoi. J'ai toujours ce truc de me dire, bah, en fait, j'ai pas envie de voir des gens, donc je suis une sociopathe et je vais finir seule sur une île et être trop bizarre. Et en fait, c'est vrai que y a des... Tu peux quand même essayer des choses dans ces moments-là, de dire, bon, bah, en fait, j'aime certaines personnes, assez peu de personnes, et j'aime les voir, mais pas tout le temps, par exemple. Et donc, leur dire... Mais c'est vrai que moi, je pense que j'ai caché pendant très longtemps à des amis que, par exemple, on se voyait trop. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il me disait, ah, tu veux dormir chez moi et machin. Moi, je disais, ouais, carrément. Et en fait, moi, j'allais me coucher et je me disais, mais je veux tellement rentrer chez moi et je ne peux pas le dire. Et c'est que des choses comme ça où après, tu essayes de creuser et tu dis, mais pourquoi est-ce que je veux tout le temps d'abord satisfaire cette personne-là avant moi? Parce que... Et puis en plus, il y a un moment où tu exploses en vol et du coup, les personnes, elles ne comprennent pas, elles se disent, mais... Je t'ai rien obligé à faire. Tu dis non, c'est moi qui sais pas vraiment. Et c'est vrai qu'il y a aussi une injonction à être en groupe, à être en couple, C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, les vacances d'été, ça me terrifiait parce que je me disais, mais en fait, il faut faire des choses tout le temps et tout le monde poste des photos et c'est super cool et tout. Et en fait, je me disais, j'ai trop envie qu'on m'invite à des vacances. Et quand on m'invitait la veille, je me disais, je veux pas y aller. Et c'est tout le temps des trucs comme ça. Et je pense qu'avec l'âge, ça devient plus simple, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à trouver cet équilibre-là. Et aussi, voilà, je me rends compte que quand je suis avec trop de personnes, quand je rentre chez moi, je suis vidée totalement, quoi. Donc, c'est aussi nécessaire de faire des vides. Et je parle énormément, comme tu peux le constater. Donc, quand je suis avec plein de gens, c'est encore pire. Chez moi, c'est silence. Je parle que à Sacha et elle ne me répond pas, donc c'est encore mieux.
Après, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas toujours y penser, mais le principe des introvertis, extravertis, il y a quand même... Enfin, j'ai eu la grande chance d'être en colocation avec une extravertie et de me rendre compte de ce fait de mon côté introverti, où en fait, j'ai compris qu'il y a des personnes qui se ressourcent avec les autres et d'autres qui se ressourcent seules. Et en fait, à partir du moment où on sait dans quel team on est, bah, la vie, moi en tout cas, elle était beaucoup plus simple parce que j'étais capable de lui dire... Alors là, je serais incapable, je n'ai plus une once d'énergie à donner à quelqu'un, surtout avec la librairie, il y a beaucoup de monde, toujours de sollicitations. Et elle a pu me dire, bah, moi j'ai besoin de monde parce que tu ne mets pas suffisante à la maison puisque tu ne parles pas. Donc, ouais. va voir du monde, je reste toute seule à la maison et c'est très bien comme ça. Mais ça a été hyper intéressant de se côtoyer et de se dire comment tu fonctionnes en fait.
Oui, c'est les définitions aussi, elles sont assez floues. Enfin, pour moi, parce que justement, moi, je suis quand même un peu constamment dehors à faire des concerts, à faire des fêtes. Et donc, du coup, je suis vue comme quelqu'un d'extraverti. Et parfois, quelqu'un arrive et me fait genre, ouais, on va faire ça, on va faire ça. Et moi, je ne me parle pas. Et donc, du coup, il y a un chaud-froid qui est hyper bizarre. Et où je pense que c'est ça que j'ai passé plein d'années à faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour correspondre à un truc. Et en fait, là, je crois que j'en ai trop la flemme. Donc voilà. Mais je pense que parfois, j'ai des amis qui me... Enfin, je sais pas, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, on se voit pas assez, machin. » Et je lui ai juste donné le livre et j'ai dit « Regarde, je pense que tu vas comprendre après.
» Mais encore une fois, donc là, tu nous proposes un précédent. En fait, grâce à ça, les personnes qui se sentent pas à l'aise d'expliquer, elles vont pouvoir proposer ton livre. Mais quand, en fait, on lit, toi aussi, tout ce que tu as mis en place, on sent qu'on manque, en fait, aussi de ces histoires-là. On manque, en fait, de personnages qui n'ont pas envie de voir les gens, mais qui ne sont pas des sociopathes, comme tu disais,
c'est ça,
les bizarres, ou les...
C'est ça, en fait, moi, je ne vois vraiment pas, mais même dans mon entourage, en vrai, je ne vois vraiment pas des gens qui sont aussi... Enfin, en fait, si, j'en vois, mais c'est des gens, pour le coup, qui sont très isolés. Et moi, j'avais ce truc d'être entre les deux, et du coup, je me suis dit, en fait, parce que même quand j'étais petite, j'arrivais... Déjà, je pleurais pendant une heure parce que je voulais pas que ma mère parte. Ensuite, je me mettais sur un banc, je parlais à personne. Il y avait toujours quelqu'un qui venait me dire tu veux être ma meilleure amie ou tu veux venir à mon anniversaire, alors que je les connaissais pas et que je pense que j'avais l'air pas sympa du tout. Et donc, je me suis dit, j'ai eu la chance de justement pas me faire isoler. On s'est jamais moqué de moi, on m'a jamais mis de côté et tout. Et en même temps, donc il y a des personnes qui me disent « Ah, merci !» Et en même temps, je vois qu'on n'a pas le même vécu. Et c'est ça, je pense que j'ai un truc entre extraverti, introverti et ces trucs-là que j'arrive pas trop à comprendre. Et donc, très souvent, les émotions et le rapport aux autres, il est très, très fluctuant. Et le trouble borderline n'aide pas du tout avec ça.
Ce qui est de ce fait hyper intéressant, c'est que tu vas aller, comme tu le disais au tout début, aller chercher en fait, des figures de femmes, d'autrices, d'artistes qui t'ont accompagnée et qui, étrangement, finalement, ne t'ont jamais laissé seule. Parce que l'image de Björk qui est à la laverie avec toi, ou d'Alida, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais sur un banc, voilà.
Elle prend la ligne 13,
qui est horrible
d'ailleurs.
Je ne connais pas cette ligne.
Bah, elle ne la connaît pas. Vrai. Elle est horrible.
Elle est horrible. Et tout comme au tout début, où tu avais aussi ce principe d'arriver avec tes personnages de fiction. Et donc, toutes ces narrations-là, tout cet imaginaire que tu développes depuis toujours, en fait, comme des béquilles ou comme des doudous, comme des instants... Enfin, on s'imagine bien, en fait, l'élément de sécurité qui t'entoure, en fait, c'est ton imaginaire depuis... j'ai l'impression toujours, quoi.
Ouais, et c'est vrai que c'est aussi des choses qui, bah, comme je parle de l'exemple du dictionnaire, donc en fait, moi, c'est vrai que j'avais tout le temps ce truc de... Mais même, je pense que j'ai déjà fait des trucs trop bizarres, genre j'avais des prospectus, des annuaires, en fait, tout ce qui était gratuit, genre je prenais, et après, je mettais dans mon sac et je me disais, quoi qu'il arrive, si j'arrive à un endroit et qu'il y a d'autres enfants... Parce que les adultes, ils te parlent pas, mais et je me disais, bah, je sors mes trucs et machin, et j'explique pas, et les gens, ils vont me laisser tranquille. Et pareil, ouais, les petites figurines, les doudous, les machins. Et c'est vrai qu'en grandissant, bon, si je dois encore avoir, bah voilà, bon, ça, c'est pas à moi, mais je dois encore avoir des petits trucs comme ça qui me rassurent, mais c'est, ouais, c'est surtout des autrices ou des réalisatrices ou des chanteuses ou des filles comme ça qui, je pense, sont. En fait, j'aime ce qu'elle raconte et j'aime ce qu'elle renvoie. Et en fait, je puise là-dedans, mais y a pas de, c'est une relation à sens unique, quoi. C'est-à-dire que si demain, Dalida, elle me disait on va prendre un café, je pense que j'aurais pas envie, quoi. C'est juste ce truc-là de... Bon, oui, elle est morte en plus, donc ce serait pas pratique. Si elle vient morte me proposer un café, je serais terrifiée, en fait. Mais, probablement. Mais ouais, je pense que c'est ça, et je pense que c'est un peu comme décorer chez toi et tout, c'est des endroits où... Voilà, où tu sais que tel truc et tel truc te rassurent, telle couleur. Et ouais, c'est des relations, en fait, qui sont complètement surréalistes, mais qui... Mais je pense que tout le monde a ça. Peut-être pas forcément sous forme de livre, ou même ça peut être des fringues, ou ça peut être du maquillage, ou voilà, un truc qui t'accompagne et qui te fait pas sentir seule, même quand t'es au milieu d'une foule d'inconnus, quoi.
Mais ce qui était interpellant aussi, c'est parmi... donc, tu as une superbe page où tu fais... Enfin, voilà, toutes les femmes de ta vie, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, artistiquement parlant, oui, et la plupart mortes, mais bon,
morte,
voilà.
Morte et folle.
Morte et folle. Et donc, j'ai relevé parmi toutes ces formidables personnes, évidemment, Sylvia Plath, autrice de La Cloche de Détresse, qui fait partie de tes livres... référence, enfin, voilà. Livre de, encore une fois, doudou, ou ceux, en tout cas, qui t'accompagnent depuis longtemps.
Que j'ai lu pendant que je dessinais la BD. Et qui est un peu trash à des moments, mais ça me faisait rire, en fait. Je me disais, c'est trop bien d'avoir écrit un truc aussi triste, en fait. Mais voilà.
Oui, mais parce que c'est vrai que ces autrices-là, sur toute cette époque-là, c'est beaucoup, donc c'est tout le fameux syndrome de la femme mystifiée, donc ces femmes qui s'ennuyaient à mourir, en fait, c'est quand même, qui avaient été élevées universitairement parlant, donc pour faire bien en société, mais qui en retour n'avaient qu'une vie domestique ou étaient utilisées par leur mec, par exemple pour Sylvia Plath. Et je me dis, c'est très touchant de voir qu'il y a un nombre assez important maintenant d'autrices qui se rapportent à Sylvia Plath et qui la font vivre encore et qui vont permettre, parce que bon, bah, moi j'ai 10 ans de plus que toi environ, et il y a quelque chose de moi quand je l'ai découverte, j'avais l'impression que personne ne la connaissait, et là maintenant on en parle avec plein d'autrices et même des plus jeunes, bah, voilà, et je suis ravie, je me dis mais toutes les personnes qui vont te lire, qui sont de cette, qui n'ont pas encore 30 ans, vont découvrir Sylvia Plath, et
ça ne va jamais. Mais ça
aurait été... C'est génial. Je dis, mais à chaque décennie, il y a comme ça une filiation, enfin quelque chose de... On transmet la rêve, quoi. Il y a vraiment
oui,
ça.
Oui, puis il y a un truc, justement, un peu de... Enfin, je sais pas, moi, je vois que... Même si c'est connu, il y a un truc un peu confidentiel de... Quand quelqu'un raconte des choses si intimes, t'as l'impression que c'est un peu des secrets, justement, de femmes, des secrets de sorcières, de genre, tiens, lis ça, tu vas voir, tu vas comprendre. Et il y a une autrice qui s'appelle Colline Pierret, je sais pas si tu la connais, donc qui a écrit... le livre comment ça s'appelle,
Pourquoi pas la vie,
voilà, Pourquoi pas la vie, où elle imagine que Sylvia Plath s'est finalement pas suicidée. Et je trouvais ça trop bien comme idée, en plus un peu galère quand même, parce que ça aurait pu, enfin, de, tu sais, c'est comme quand tu refais un morceau avec les Beatles mais alors qu'ils sont morts, tu vois, c'est genre
l'hologramme,
parfois tu te dis bon, les gens morts, laissons les morts, mais là j'avais trouvé ça vraiment chouette, et c'est vrai que comme il y a beaucoup de femmes qui s'identifient à elle et qui s'inspirent de son œuvre, de l'imaginer vivante et d'avoir eu encore plus d'infos sur elle, c'est vrai que moi dans le livre je parle de ma grand-mère qui est décédée quand j'étais jeune et qui était vraiment pour moi comme une deuxième maman, et tout le monde dans la famille me parle d'elle. Mais je veux pas écouter, en fait. Je me dis, mais je suis sûre que vous savez pas du tout, en fait, à quoi elle pensait. Et je sais plus, parfois je demande à mon grand-père, mais est-ce qu'elle voulait vraiment avoir 3 enfants ou est-ce que c'est juste parce qu'il fallait faire des enfants? Et après, il s'énerve et il me dit, mais bien sûr. Et moi, je me dis, ça se trouve, elle voulait pas du tout d'enfants. Et genre, ça l'a méga déprimée et tout. Et voilà, je trouve ça chouette d'avoir imaginé ça, en tout cas, une fin un peu... moins tragique, quoi.
Ouais. Oui, et puis parce que bon, c'est marrant, j'ai beaucoup parlé de Colline aujourd'hui avec Éloge des fins heureuses, qui est le petit essai qu'elle a publié à peu près au même moment que Pourquoi pas la vie, et qui explique comment, en fait, politiquement, s'engager vers des fins heureuses, c'est important parce que c'est contrer le capitalisme, la surproduction, que en fait, faire du bien aux gens par des fins heureuses, c'est un travail beaucoup plus difficile que de les rendre tristes.
Okay. Voilà,
ça c'est un peu... Alors, Colline, excuse-moi de résumer un si peu ton livre, mais en tout cas, c'était cette idée-là. Mais ce que vous avez toutes les deux, je trouve, en commun, c'est que dans ces récits extrêmement intimes, parce que Colline aussi, elle écrit de manière très posée sur qui elle est, comment elle se sent dans ce monde, etc. Mais c'est que vous avez énormément d'humour aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir dur dans le monde, triste, être seul, galérer comme pas croyable, parce que ça arrive. Mais il y a quand même un truc d'humour. Et ton livre, il est drôle aussi.
Bah ça me fait plaisir. Parce que je m'étais dit à la fin du livre, ah, j'aurais peut-être pu mettre des blagues. Et quelqu'un m'a dit, mais il y a des blagues. Et j'étais
carrément.
Ah, bon, ça va. Ça va. Mais c'est vrai que... En fait, je sais plus, je me faisais la réflexion, je sais plus, il y a 2 jours où j'étais super de mauvaise humeur, super énervée. Et puis, je sais plus, il y a un copain qui m'a envoyé un truc et je lui ai répondu une blague et je me suis fait rire moi-même et j'étais là, putain, heureusement qu'il y a ça, quoi, parce que sinon ce serait vraiment super triste. Et c'est vrai que même le fait d'avoir un chien, genre parfois elle fait vraiment des trucs absurdes, trop bizarres, et d'un coup t'exploses de rire comme ça dans la journée et tu te dis, bon, tout n'est pas fini. Et je pense que aussi parler avec humour de certains trucs un peu galères, c'est aussi ça t'aide, quoi. Moi, je sais que j'ai une amie parfois qui fait des blagues super trash sur genre ses agressions sexuelles ou genre son père qui est mort ou des trucs comme ça, et ça met mal à l'aise tout le monde, mais tu vois que ça lui sort des trucs, et puis parfois du coup on en rigole ensemble alors qu'à la base c'est des sujets horribles et genre hyper traumatisants. Mais ouais, voilà, je pense que l'humour est nécessaire, et surtout l'humour de femme est nécessaire, parce qu'on dit tout le temps que les femmes sont pas drôles, et moi je milite contre les femmes, non, contre...
Et là c'est le drame.
Ouais, je déteste les femmes, en fait.
Mais c'est vrai que le rire des femmes, c'est fait très très peur, encore.
Bah en fait, on n'y croit pas, je crois. Il y a ce truc de... En fait, je sais plus, j'étais en vacances avec un groupe d'amis. Enfin, c'était pas vraiment des amis, mais... non, mais parce que c'est pas mes amis. Mais... Et en fait, je voyais tous ces garçons hyper à l'aise à faire des blagues. Pas hyper drôles, mais pas gênants, parce qu'on est habitués, quoi. Et je voyais que du coup, je me disais, mais c'est pas notre nature, les filles, d'être... Donc moi, ça va, parce que je suis habituée depuis longtemps à dire n'importe quoi en public, à avoir des micros et tout, donc je suis assez à l'aise. Mais je voyais les deux filles qui étaient là, pas trop oser justement dire des trucs un peu choquants, ou pas trop oser dire ce qu'elles pensaient, ou faire des blagues. Et avec l'alcool, ça sortait plus, quoi. Et je me disais, mais en même temps, c'est vrai que quand t'es une fille, que t'arrives au milieu d'un groupe de garçons et que tu fais une blague et que c'est pas hyper drôle... Bah, c'est hyper gênant. Enfin, il y a un truc de genre, bon... Après, bon, j'imagine qu'il y a des groupes où t'es plus à l'aise et tout. Mais c'est vrai que même dans le stand-up, je sais pas, dès qu'une fille fait une blague de cul ou un truc comme ça, on va dire, ah, elle fait ça pour provoquer et tout. Et t'es là, non, juste, elle a déjà fait l'amour dans sa vie, donc elle fait des blagues dessus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça demande encore beaucoup de courage de faire des blagues. Et c'est vrai que même quand, moi, l'autre fois, on m'a dit, tu vas participer à un podcast, bon, le Floodcast, je le nomme parce que tout le monde me parle du Floodcast. Et donc, les garçons, ils m'ont dit, avec qui t'aimerais être invité? Et donc, je me suis dit, putain, vite, il faut que je trouve une meuf qui est à l'aise avec le fait de faire des blagues, parce que c'est un peu le concept du truc. Et en fait, je cherchais dans mon Instagram comme ça et j'étais en mode, ah ouais, putain, en fait, j'en connais pas beaucoup. Et finalement, j'ai trouvé donc Camille Fieves, qui est très, très drôle. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est aussi à moi, c'est mon boulot aussi d'aller chercher du stand-up de meufs ou du stand-up de personnes queer et arrêter d'aller tout le temps juste consommer des mecs qui font des blagues sur TikTok, sur YouTube, machin. Faut faire le boulot soi-même, quoi, parce qu'on va pas te proposer, genre, tiens, 10 femmes drôles. On va juste dire, tiens, Florence Foresti et Blanche Gardin, et c'est tout. Donc, ouais, faut taffer un petit peu. Mais il faut que les hommes aussi, qui sont déjà en haut de la pile, ils invitent plus de femmes, parce que c'est pas simple de pousser tout le monde et de dire, regardez, je suis trop drôle.
Toutes les personnes qu'on cite, qu'on pourrait encore citer, et dont tu parles dans ton livre, c'est aussi de montrer cet endroit très important de la créativité. C'est un peu une touquette aussi qu'on a ici, c'est de savoir à quel moment, en fait, ces créativités-là, ces circulations-là d'idées, toutes ces choses que Nathalie Sejean, donc une personne qui est proche de la librairie, parle beaucoup et dont je la cite souvent, mais ce truc qui nous rend plus vivants, vivantes, plus dans une vitalité comme ça. Quand ton processus créatif, tu t'es rendu compte assez vite que c'était un processus que pour pouvoir te supporter, parce que je pense qu'à un moment donné, l'émotion très forte, tes troubles borderline quand ils ont été détectés, des choses. Enfin, c'est des choses qu'il faut savoir quand même gérer, qui on est quand on a toutes ces émotions qui sont assez instables, etc. Est-ce que tu as trouvé en la créativité, les dessins, l'écriture, le chant, la musique, les compositions, ça a été vraiment ton endroit de, je sais pas, de révolution peut-être, de comment on se gère avec tout ça?
Ouais, en fait, je sais que j'ai commencé à poster des trucs sur Internet très jeune, genre époque Skyblog, tout ça, quoi. Donc à l'époque, d'ailleurs, je suivais à fond les blogs de Digli et Pénélope Bagieux. Et donc j'ai rencontré Digli la semaine dernière, qui est venue à ma rencontre dédicace, et j'étais en mode, waouh, incroyable ce qui se passe, la toute petite moi est folle. Et donc, j'ai toujours eu cette envie de partager ce que je faisais. Par contre, il n'y avait aucun message, vraiment, au début. C'était genre, je dessinais toujours une fille avec un chien. Donc, regarde ce qui nous arrive.
Oui. Elle te regarde vraiment, avec des yeux d'amour.
Déjà, alors, aucun homme à l'époque.
La chienne, n'est-ce pas, Sacha?
Bah alors, elle a répondu. Mais il t'arrive. Et en fait, c'est vrai que vers... je crois que c'était il y a... je sais pas, genre 5-6 ans, où j'ai commencé sur mon Tumblr à l'époque à parler un peu d'anxiété et toujours un peu de solitude, anxiété, machin. J'habitais déjà à Paris depuis 2-3 ans. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai découvert que vivre seule, ça pouvait être compliqué. J'étais en coloc au début, et en fait, quand ma coloc partait le soir, je pleurais. Et genre, j'allais dormir dans son lit, je faisais des trucs trop bizarres, je dormais la lumière allumée, des trucs comme ça. Et en fait, je lui ai dit à un moment, il faut que j'aille vivre seule parce que je sens qu'il y a un problème, faut que j'affronte le truc. Et hyper glauque ce que je vais dire, mais la première fois que j'ai visité mon appart, donc il était horrible, tout petit, affreux. Et j'ai visité, et genre, je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre et tout. Et je me suis dit, bon, au pire, j'habite au 6e, je saute par la fenêtre, quoi. Première visite, j'ai pensé ça, et j'étais avec ma mère, et elle me dit, ça te plaît? J'ai fait, oui, oui. Et après, je me suis dit, waouh, c'est vraiment trash. Mais à cette époque-là, je me disais, tu sais, je voyais pas de psy et tout, je me disais juste, genre, bon, t'habites seule, ça fait un peu peur et tout. Sauter par la fenêtre. Et donc voilà, j'ai commencé à parler de ces trucs-là, et notamment sur Instagram, je postais, des dessins, de la musique et tout, et les moments où j'ai commencé à parler d'anxiété ou d'écrire des petits trucs de mon quotidien, tout de suite ça partait dans d'autres sphères, les gens se les partageaient, il y avait énormément de j'aime et tout, et je me disais, ouais, c'est fou. Et c'est vrai que ça me faisait du bien, parce que c'était des moments où je racontais des trucs un peu gênants ou bizarres, ou genre je rentrais de tournée. Et donc, j'étais avec Axel, qui, lui, a une femme et un enfant. Et donc, lui, il rentrait avec sa femme et son enfant, avoir une vie normale. Et moi, je me retrouvais dans mon 18 mètres carrés avec des fissures dans les murs et des bruits de souris. Et j'étais comme ça. Et je me disais, ouais, trop bizarre. Genre, mes amis sont à l'école ou au travail. Et moi, je passe mes journées dans cet endroit. Je sais pas quoi faire de ça. Et le fait d'avoir fait des vidéos et des posts et tout, ouais, ça m'aidait à me sentir moins seule. Mais après, c'est vrai que quand j'ai jamais vu ce truc, tu sais, genre, ah, je me sens énervée, donc je vais faire une toile avec du rouge, tu vois. Genre, j'ai jamais ressenti ce truc-là, mais c'est plus le fait, ouais, de communiquer avec le monde extérieur, et bah, c'est ce que j'ai fait avec cette BD, voilà, et de me rendre compte qu'il y a d'autres gens qui ressentent les mêmes choses que moi. Ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Et après, c'est vrai que j'adore dessiner, mais c'est vrai que parfois, même dessiner sans forcément... Mais je me rends compte que quand même, dans n'importe quelle BD ou quoi, il y a quand même toujours un petit message caché. Même si c'est une blague ou un poème ou je sais pas quoi, il y a quand même toujours un truc que j'ai envie de raconter derrière.
Je pense que l'impatience de Sacha...
Je sais pas si c'est de l'impatience ou c'est juste qu'elle s'est réveillée. Tu veux dire quelque chose? Elle a dit qu'elle adorait cette librairie.
Oh, merci beaucoup.
Elle sait pas lire par contre.
C'est pas grave. Non, mais là, je suis à deux doigts d'adopter une chaîne pour la librairie. Là, je la voyais évoluer. J'étais genre...
Oh. Ça marche bien, non? Je trouve que ça fit bien. Juste tu lui feras pas cette horrible coupe.
Oh, mais tu es magnifique.
Non, je vais dîner.
Eh bien, merci beaucoup, Pauline.
Ben, merci.
Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Pauline de Tarragon à l'occasion de la publication de sa bande dessinée Minuscule, Folle, Sauvage aux éditions La Ville Brûle. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec La Franchie Podcast.